VOA Afrique, les infos. À Washington, Nathalie Barre.
Il est 16h à Dakar, 17h à Libreville et 18h à Goma et Bukavu. Le procès de l'ex-président tchadien Hissène Habré a commencé ce lundi à Dakar, où il a été amené de force au tribunal spécial chargé de le juger. Le point avec Nicolas Pineau.
Vêtu de blanc et coiffé d'un turban, Hissène Habré, 72 ans, qui refusait de comparaître, a été amené de force et porté dans le box des acculés au palais de justice de Dakar par des agents de l'administration pénitentiaire. Chapelet de prière à la main, il a levé le poing et crié « Allahu Akbar ». Le procès qui s'ouvre ce lundi se tient devant les chambres africaines extraordinaires, tribunal spécial créé par l'Union africaine. L'accusé qui ne reconnaît pas cette juridiction ni dans sa légalité ni dans sa légitimité, selon ses avocats, leur avait donné instruction de ne pas assister non plus aux audiences. Le procès a pu démarrer après l'évacuation de partisans de l'accusé qui ont hurlé des slogans hostiles à la cour. Le président du tribunal, le Burkinabé Gberdao Gustave Kam, a constaté que la défense n'était pas représentée avant de poursuivre la séance en présence d'environ un millier de personnes. Hissène Habré en détention depuis 2 ans au Sénégal, où il avait trouvé refuge après avoir été renversé en 1990 par l'actuel président tchadien Idriss Déby Itno. Hissène Habré est poursuivi pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de torture. La répression féroce sous son régime entre 1982 et 1990 a fait 40 000 morts, selon les organisations de défense des droits de l'homme.
Et sur l'ouverture du procès, voici à présent la réaction de Clément Abbé Fouta, le président de l'association des victimes des crimes du régime d'Hissène Habré.
J'ai été arrêté le 12 juillet 1985 et libéré le 7 mars 1989 à N'Djamena. J'ai passé 4 ans donc dans des conditions inhumaines. C'était de la torture, c'était de la bastonnade et de pourquoi j'ai été obligé, n'est-ce pas, d'enterrer mes collègues pendant tout le temps de ma détention. Mais il faut dire que c'est un moment plein d'émotions, une longue marche avec beaucoup de défis et je crois que c'est vraiment une satisfaction que je puisse voir Hissène Habré à la barre. Le lundi 20, c'est le couronnement d'une longue attente, le couronnement de beaucoup de sacrifices et je me dis que c'est une satisfaction pour nous les victimes.
Reprise demain, mardi, du procès des officiers proches de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Ouvert le 9 juin dernier, ce procès avait été suspendu 2 jours plus tard. 9 officiers pro-Gbagbo comparaissent pour leur rôle présumé dans des exactions durant la crise post-électorale de 2010-2011. Monsieur Gbagbo, emprisonné depuis 3 ans à La Haye, doit être jugé à partir de novembre pour crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Le virus Ebola ne fait plus la une des journaux, mais l'épidémie en Afrique de l'Ouest continue de faire des victimes aujourd'hui, rappelle MSF. Les taux d'infection sont en effet en baisse par rapport au pic de la crise l'an dernier et des progrès ont été réalisés. Cependant, environ 30 personnes encore sont infectées chaque semaine en Sierra Leone et en Guinée, un nombre qui serait considéré comme une catastrophe majeure dans des circonstances normales. Et l'épidémie a récemment réapparu au Libéria, souligne MSF dans un communiqué, ajoutant que les infections en cours dans les capitales Freetown et Conakry et les décès dus à Ebola découverts tardivement dans les communautés restent très préoccupants. Pour passer de 100 à 30 cas par semaine, il a fallu beaucoup de temps et de ressources, mais passer de 30 cas à zéro sera encore plus difficile et nécessitera un travail méticuleux, a déclaré MSF. Propagation du virus H5N1, il faut intervenir dans les plus brefs délais, alerte la FAO, faute de quoi les foyers de grippe aviaire hautement virulente se répandront davantage à travers l'Afrique de l'Ouest. Le point avec Camille Grosdidier.
La FAO réclame 20 millions de dollars pour financer des opérations d'intervention et de prévention. Un appel lancé après l'apparition de foyers du virus H5N1 dans les élevages de volailles, les marchés ou encore les exploitations familiales au Nigeria, Burkina Faso, Niger, en Côte d'Ivoire et au Ghana. La grippe aviaire pourrait déclencher une hécatombe de poulets, source nutritive et peu coûteuse de nourriture pour de nombreuses personnes, constate l'agence onusienne. Elle dit redouter la dégradation de la sécurité alimentaire et l'impact de la grippe aviaire sur des économies fragilisées par l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola. La première incursion du virus H5N1 en Afrique de l'Ouest s'est produite en 2006, rappelle la FAO, mais la maladie a été éliminée en 2008. Fin 2014, le virus a été réintroduit au Nigeria, où il s'est répandu rapidement. Déjà plus de 1,6 million de volailles ont été abattues ou sont mortes des suites du virus.
Le président américain Barack Obama reçoit aujourd'hui à Washington son homologue nigérian Muhammadu Buhari pour des discussions qui porteront en priorité sur la menace posée par le groupe islamiste nigérian Boko Haram. Pendant ce temps, au Nigeria, les attentats continuent à un rythme quasi quotidien. Une explosion près de Damaturu a fait au moins 6 morts ce lundi, selon l'AFP. Monsieur Obama se rendra le 23 juillet à Nairobi, au Kenya, sa première visite en tant que président au pays natal de son père. Il ira ensuite au siège de l'Union africaine à Addis Abeba pour le premier séjour d'un président américain en Éthiopie.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Les banques grecques ont rouvert ce lundi matin après 3 semaines de fermeture instaurée pour protéger le système bancaire des retraits massifs. Le point avec Camille Gros-Didier.
Des mesures de contrôle des capitaux sont toujours en vigueur, ainsi que de nouvelles taxes imposées par les créanciers d'Athènes. La limite quotidienne de retrait reste fixée à 60 euros, mais le gouvernement accordera une nouvelle limite hebdomadaire de 420 euros dès dimanche prochain, ce qui évitera aux Grecs de se rendre aux guichets automatiques pratiquement chaque jour. Par ailleurs, les virements vers l'étranger restent étroitement limités. Les nouvelles taxes sont entrées en vigueur sur une variété de biens et services, notamment la taxe de vente est passée de 13 à 23% sur de nombreux produits de base. L'allègement de la fiscalité faisait partie des conditions qu'Athènes devait remplir pour négocier un ultime plan de sauvetage financier avec ses créanciers. La Banque centrale européenne a renforcé son aide d'urgence aux banques grecques. Un accord doit être négocié dans les prochaines semaines pour accorder à la Grèce autour de 85 milliards d'euros.
Un attentat suicide a frappé ce lundi la ville turque de Sourous, près de la frontière syrienne. Il a fait au moins 30 morts et des dizaines de blessés, indique l'AFP, citant des sources officielles turques. L'attaque attribuée au groupe État islamique s'est produite dans le jardin d'un centre culturel où résident des jeunes militants de gauche et pro-kurdes voulant participer à la reconstruction de Kobané en Syrie. Rétablissement des relations diplomatiques normales entre Cuba et les États-Unis. L'ambassade de Cuba à Washington rouvre ses portes ce lundi. À cette occasion, le secrétaire d'État américain John Kerry reçoit son homologue cubain Bruno Rodriguez au département d'État. Le secrétaire américain à la Défense, Ashton Carter, est en Israël. La première étape de sa tournée dans les pays alliés des États-Unis au Moyen-Orient afin de les informer au sujet de l'accord nucléaire avec l'Iran et de la lutte contre le groupe État islamique. Le chef du Pentagone a déjà eu ce lundi des entretiens avec son homologue israélien Moshe Yalon. Il doit avoir des consultations demain avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui est vivement contre l'accord nucléaire iranien. Dans le sud du Yémen, les forces pro-gouvernementales ont dit ce lundi avoir étendu leur contrôle de Tawaï dans le centre d'Aden, contrôlé par les rebelles Houthis. La résistance populaire a repris la résidence présidentielle, la radio-télévision, le siège du commandement de la 4e région militaire et la base navale, a indiqué un porte-parole. Des rebelles restent en embuscade sur des toits, mais ils sont en petit nombre, a assuré ce porte-parole des forces loyales au président Abderrabo Mansour Hadi, réfugié en Arabie Saoudite. Les combats ont fait 28 morts, 17 rebelles et 11 loyalistes et des dizaines de blessés. 40 Houthis ont été faits prisonniers, a dit le loyaliste, ajoutant que le palais présidentiel d'Al-Mashik était toujours aux mains des insurgés. Et l'élection du successeur du Suisse Joseph Blatter à la présidence de la FIFA aura lieu le 26 février 2016. Ainsi en a décidé ce lundi le comité exécutif de l'instance suprême du football mondial à Zurich. La FIFA est secouée depuis 2 mois par un scandale de corruption.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.